on est malade ou blessé, ou parce qu'il y a des obstacles, on pense à tous ces éboulements qu'il y a eu dernièrement, là en Valais, l'effondrement dans le tunnel qui relie Rida Latsuma ou dans d'autres vallées, enfin d'autres routes qui ont été coupées parce qu'il y a eu des éboulements. Donc il peut y avoir des obstacles. Ça peut être aussi un manque de repères. Voilà, on est perdu, il y a du brouillard, on ne sait plus où c'est qu'on doit aller. Ça peut être des peurs, manque de moyens, manque de temps ou des imprévus. Et lorsque nous nous trouvons comme ça, arrêtés, bloqués, eh bien, on a le choix entre abandonner et puis on revient en arrière, ou alors on essaye de trouver un moyen de continuer notre route. Et dans la vie chrétienne, c'est aussi pareil, parce que la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille, hein, je crois que tout le monde le sait. Et il y a aussi parfois des obstacles, il y a du découragement, il peut y avoir de la lassitude, de l'amertume, des craintes, des préoccupations, de la culpabilité, ou un manque d'objectifs, ou alors les habitudes, le confort, la routine. Voilà, tout ça, c'est des choses en fait, qui peuvent nous ralentir, nous freiner, voire même nous arrêter dans notre foi. Alors, comment est-ce qu'on peut vivre ces temps d'arrêt, ces temps de désert, de questionnement, de doute peut-être, ou de ras-le-bol? Comment se remettre en route? Alors, tout d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est que ces temps-là, ce n'est pas des temps extraordinaires, mais c'est des temps qui sont tout à fait normaux. Ce n'est pas inutile. Le Seigneur, il a un plan avec tout ça. On a parlé de la nature déjà dans la louange, et puis c'est vrai que Jésus, il a aussi beaucoup parlé de la nature dans ses enseignements. Et je crois qu'il faut qu'on comprenne aussi qu'il y a un principe dans la nature où il y a un parallèle en fait avec notre vie spirituelle. Alors dans Jean 12, alors Jésus répond à ses disciples, André et Philippe, et il leur dit: « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Alors, qu'est-ce que Jésus a voulu dire par là? Il parle de sa mort et puis il parle du grain de blé. Il prend une image dans la nature pour expliquer ce qui va se passer avec lui. Donc, il va annoncer sa mort et il va annoncer aussi sa résurrection. Et il dit que le grain de blé, quand il est semé, il va quelque part mourir. Il ne va pas mourir complètement parce qu'il va se transformer. Et puis ensuite, ça va devenir une plante qui va porter du fruit. Et l'apôtre Paul, il va aussi reprendre cette image dans 1 Corinthiens 15, les versets 35 à 38. Quelqu'un dira: comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Homme dépourvu de bon sens, ce que tu sèmes ne peut reprendre vie que s'il meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas la plante qui poussera, c'est une simple graine, un grain de blé peut-être ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Voilà. Donc, l'apôtre Paul, il va reprendre cet exemple du grain de blé ou d'une autre semence. Et il dit que le grain de blé dans la terre, il va en quelque sorte mourir en tant que grain. Ça ne va plus être un grain. Il va se transformer pour devenir une plante qui va à son tour porter du fruit. Et dans tout ce chapitre de 1 Corinthiens 15, on pourrait lire tout le chapitre. On ne va pas le faire ce matin, mais l'apôtre Paul explique la résurrection et ce qui va aussi advenir de nos corps à nous. Lorsque nous allons mourir, eh bien, notre corps terrestre, notre corps physique, il va redevenir de la poussière, mais il va ressusciter ensuite et on aura un corps qui est nouveau, qui est transformé et qui est beaucoup plus glorieux. Il n'y aura plus la maladie, il n'y aura plus la souffrance, il n'y aura plus tout ça. On aura un corps différent, comme Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il a eu un corps nouveau, glorieux. Il pouvait passer à travers les murs, il était plus limité d'aucune manière. Et nous, ce sera pareil lorsque nous ressusciterons. Donc, il y a mort pour qu'il y ait résurrection, mais la mort, ce n'est pas un anéantissement, pardon, mais c'est une transformation pour qu'il y ait quelque chose de plus glorieux ensuite. Donc, on voit que la mort précède la vie, en fait. Et puis, on retrouve aussi ce même principe dans le début de la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, c'est les tout premiers versets de la Genèse. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il eut un soir et il eut un matin, ce fut le premier jour. Donc on voit que d'abord il y a les ténèbres et ensuite Dieu appelle la lumière à l'existence et la lumière vient et Dieu sépare la lumière des ténèbres. Mais d'abord il y a les ténèbres et après la lumière. Et puis on voit qu'il y a d'abord un soir et après un matin. Donc la nuit précède le jour, et ça c'est pour le premier jour, pour le deuxième jour, pour le troisième jour, etc. Chaque fois c'est mis, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, ce fut le deuxième jour, ce fut le troisième jour, etc. Donc on voit que chaque fois c'est comme ça. Et dans notre vie spirituelle c'est pareil en fait. D'abord on était mort dans nos péchés, spirituellement en naissant on était déjà mort. Spirituellement. Mais ensuite, lorsque nous avons reçu Christ dans notre cœur, eh bien, nous sommes ressuscités en lui. Nous avons reçu sa vie en nous, cette vie éternelle qui ne mourra jamais. Et c'est ce que nous affirmons en passant par le baptême d'eau. Nous affirmons que nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités en lui. Et on trouve dans Romains 6, les versets 1 à 4. Que dirons-nous donc ? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Voilà, donc tout le chapitre 6 nous explique cela dans l'épître aux Romains. Et dans la vie courante, on retrouve aussi, en fait, ce principe. Il y a le sommeil qui précède l'éveil. Et Jésus a souvent comparé la mort au sommeil, hein, dans les évangiles, on le voit. Voilà, quand on dort, ben, on n'est pas mort, évidemment. Mais on est comme inconscient en fait, on n'est pas conscient de ce qu'il y a autour de nous. Et lorsqu'on se réveille, eh bien, voilà, c'est de nouveau comme si on revenait à la vie. Dans la musique, ben, il y a aussi des soupirs, il y a des pauses, il y a des silences. Ben, imaginez que s'il y avait la musique, c'était tout le temps joué ou tout le temps chanté. Ouf, on ne pourrait pas respirer, quoi. Ça irait pas. Il y a besoin qu'il y ait justement des temps où il n'y a rien du tout en fait. Et puis dans l'écriture, c'est pareil. Voilà, il y a des points, il y a des virgules, il y a des paragraphes, il y a des chapitres. S'il y avait tout le temps, tout était à la suite, ce serait un peu difficile à comprendre. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui se passe avec la parole de Dieu. À l'origine, c'était écrit sans ponctuation, sans espace et tout pour gagner de la place, puisque les parchemins étaient très chers et très rares. Alors, on écrivait tout à la suite, ben, ça posait quelques problèmes après pour comprendre le texte. Et puis, on le voit dans la nature, l'hiver qui précède le printemps. On parle beaucoup de la nature ce matin. Et voilà, et l'hiver, ben, il semble que tout est mort, qu'il n'y a plus rien, les arbres sont tous secs parce que la sève est descendue, etc. Mais quand le printemps vient, il y a une vie nouvelle qui vient. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que les arbres, ils ont mis un petit bout de branche en plus. Il y a croissance. Chaque fois qu'il y a, après la phase, disons, de repos, de mort, il y a la vie qui vient, il y a toujours quelque chose en plus. Lorsqu'on se réveille après le sommeil, ben, on est renouvelé. Si on a bien dormi, évidemment. Mon principe, c'est le but, c'est qu'on se réveille en forme et prêt à commencer une nouvelle journée. Alors que quand on va se coucher, on est fatigué et puis voilà, on commence à plus trop pouvoir se concentrer, on n'a plus de force, etc. Et c'est pareil dans la musique, dans l'écriture, lorsqu'il y a une nouvelle phrase musicale ou quelque chose de nouveau qui est écrit, c'est pour rajouter quelque chose. C'est pour peut-être passer à un autre chapitre, passer à une autre phrase musicale. Donc il y a toujours quelque chose en plus qui vient après. Lorsque la sève monte dans les branches, comme je dis, l'arbre il va pousser, il y a des nouvelles branches qui vont venir, et l'arbre il grandit, et chaque année, il sera un peu plus grand. Donc, en fait, il y a ces deux principes qu'il faut bien qu'on comprenne. C'est d'une part que la mort précède la vie, et puis d'autre part que la vie qui vient après la mort, elle est différente. En fait, il y a transformation, c'est plus la même chose. Elle est meilleure, elle est porteuse de fruits aussi. Parce que le grain, comme Jésus a dit, le grain qui est semé en terre, il va devenir une plante, mais dans la plante, il y aura beaucoup de grains. Il n'y aura pas juste un grain, il y aura beaucoup de grains. Et ça se transforme dans le sens que si vous prenez une graine, par exemple, je sais pas, un grain de haricot, si vous connaissez absolument rien dans le jardinage, vous voyez une graine de haricot, vous ne savez pas que c'est une graine de haricot. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça va devenir. Et puis, ce n'est pas non plus proportionnel. Une graine de haricot, c'est assez grand. Par contre, une graine de salade, c'est tout petit. Mais une salade, c'est plus grand qu'un haricot. Vous voyez, on ne peut pas imaginer, quand on voit une graine, si on n'y connaît rien dans la botanique ou dans le jardinage, on ne peut pas du tout imaginer ce que ça va donner. C'est complètement différent. Dans le grain, il y a la nature de la plante. Mais la plante qui devient, quand ça devient une plante, ça n'a plus rien à voir avec le grain, visuellement, je veux dire. Hein, on est d'accord. Bah, pour nous, c'est pareil. Mais maintenant, il y a un stade à passer. Et c'est là que ça devient délicat. C'est-à-dire que quand vous semez des graines, alors ceux qui font du jardin le savent bien, c'est que parfois les graines, elles ne germent pas. Il n'y a pas toutes les graines qui vont donner quelque chose. Pourquoi ? Parce que la graine, elle est tributaire de la qualité du terrain, elle est tributaire de la météo, s'il fait trop sec ou trop humide, ça ne va peut-être rien donner. La graine, elle peut sécher, elle peut pourrir s'il y a trop d'eau. Il faut qu'il y ait le sol, qu'il y ait des nutriments, que le sol soit suffisamment riche. Enfin, il y a des plantes qui ont besoin de sol assez pauvre, d'autres plantes qui ont besoin de sol plus riche pour grandir, pour donner quelque chose. C'est différent pour chaque plante. Hein. C'est pour ça qu'on ne peut pas semer n'importe quoi, n'importe où. Sinon, il n'y a pas grand-chose qui va pousser. Et puis, il y a aussi les prédateurs. Et Jésus a bien expliqué ça dans la parabole de la semence et des terrains, donc où il y a quatre terrains différents, et la semence va tomber dans ces différents terrains. Et au bord du chemin, voilà, il y a les oiseaux qui viennent manger les graines. Donc, ça ne va rien donner. Hein. Il peut y avoir des oiseaux ou d'autres animaux qui vont manger la graine. La graine, elle ne va pas germer. Il y a d'autres plantes, d'autres semences qui vont tomber dans un sol pierreux. Il y aura pas assez de terre, il fera trop chaud, ça va sécher. D'autres plantes qui vont pousser à un bout, mais il y aura les épines qui vont venir étouffer. Et puis enfin, il y a la semence qui tombe dans la bonne terre et qui produit beaucoup de fruits. Donc, quand la semence elle est dans la terre, en fait, elle est vulnérable. Et quand nous passons par des moments de lassitude, de découragement, des moments d'épreuve, de difficulté, nous sommes aussi vulnérables à ce moment-là. Qu'est-ce que ça va donner ? Comment est-ce qu'on va ressortir de ça ? Et c'est là qu'on a besoin aussi de se rappeler que Dieu nous aime, comme on l'a chanté, hein, malgré nos doutes, malgré nos difficultés. Dieu est là, il nous aime et il nous tient, il ne nous lâche pas. Voilà, donc on peut passer par des périodes difficiles, de désert, d'épreuves, de questionnements, de lassitude et tout. Et nous sommes vulnérables parce que l'ennemi de nos âmes, le diable, il va absolument chercher à ce qu'on reste là, à ce qu'on ne se relève pas et de ce qu'on ne se remette pas en route. Mais le but que Dieu a pour nous, le projet, c'est qu'on continue le chemin avec lui, c'est qu'on se remette en route avec lui, qu'on ne lâche pas sa main. Et lorsque nous sommes dans ces périodes-là, eh bien, on se trouve devant le choix, soit de persévérer, soit d'abandonner. Alors, comment persévérer ? On va lire quelques versets du psaume 73. C'est un psaume d'Asaph, qui était un conducteur de louanges. « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser. Car j'étais jaloux des vantards en voyant le bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Alors là, Asaph, il ne comprend plus rien. Parce que d'après les promesses de Dieu, d'après ce que Dieu a dit dans le Deutéronome, c'est qu'en fait, si on craint Dieu, pour celui qui aime Dieu, qui obéit à ses commandements, il y a le bonheur, il y a la prospérité, il y a tout qui va bien. Puis lui, il est au service de Dieu, il aime le Seigneur, il le sert de tout son cœur. Et puis il voit que pour lui, ça ne se passe pas comme ça. Puis par contre, il voit des gens qui ne craignent pas Dieu, qui font le mal. Et puis eux, pour eux, tout va bien. Il se dit, mais il y a quelque chose qui ne joue pas dans la doctrine. Seigneur, comment ça se fait? Ça ne joue pas, ça. Il se pose beaucoup de questions et il est découragé. Et il est tenté d'abandonner. On continue. Alors, voici comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils augmentent leur richesse. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour, je suis frappé, tous les matins, je suis repris. Si je disais, je veux parler comme eux, alors je trahirais tes enfants. Voilà, là, on voit qu'il a un problème de conscience. En fait, il se dit, mais est-ce que ça vaut la peine de servir Dieu? Est-ce que ça vaut la peine d'être droit? Parce qu'en fait, mais qu'est-ce que j'y gagne? C'est quoi le résultat? Et il se pose vraiment des questions. Là, il est vraiment dans un conflit intérieur. Et il est tenté d'abandonner. Puis il se dit, mais si j'abandonne, non, je ne peux pas faire ça. Ça ne va pas, ça me pose un conflit de loyauté. Mais ça continue. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux. Jusqu'au moment où je suis entrée dans les sanctuaires de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. Alors là, il a trouvé une clé. C'est qu'en fait, il est allé dans le sanctuaire, dans la présence de Dieu. Il allait rechercher cette présence de Dieu. Et puis, en fait, le résultat, c'est qu'après, il a eu une autre vision de la situation. Il a vu plus loin que juste le présent, que juste ce qu'il voyait avec ses yeux humains. Il a vu que Dieu est un Dieu juste, qui rend justice, et qu'ensuite, il va y avoir, la justice de Dieu. Il va y avoir un jugement pour les méchants. Il voit vraiment au-delà. Lorsque mon cœur était aigri et mes reins transpercés, donc on voit qu'il y a de l'amertume, j'étais idiot et je ne comprenais rien, j'étais devant toi comme une bête. Il réalise qu'en fait, c'est sa nature humaine qui parlait. Il agissait d'après sa nature humaine et charnelle et pas d'après sa nature spirituelle. Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. Oui, ceux qui s'éloignent de toi vont à leur perte. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, mon bonheur, c'est de m'approcher de Dieu. Je place mon refuge en toi, Seigneur éternel, afin de raconter tout ce que tu fais. Voilà. Donc là, il réalise en fait que Dieu, c'est l'essentiel, que Dieu, il est plus important que tout et que son bonheur, c'est en Dieu qu'il peut le trouver. Ce n'est pas forcément dans les choses ici-bas, mais c'est en Dieu. Il peut se réfugier en lui. Puis on voit que Anne, dans la parole de Dieu, elle a fait aussi une expérience similaire. C'est dans 1 Samuel 1, on ne va pas le lire. Anne était dans l'amertume parce qu'elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Et l'autre femme de son mari, Pénina, elle avait des enfants et puis elle se moquait d'Anne parce qu'Anne n'en avait pas. Et pour Anne, c'était vraiment difficile de vivre cela. Et elle était vraiment dans l'amertume. Et un jour, elle a décidé d'aller dans le temple et de répandre son cœur devant Dieu, de dire devant le Seigneur tout ce qu'elle ressentait, tout ce qu'elle éprouvait. Et elle a reçu cette promesse, enfin, elle a fait un vœu à Dieu, elle a fait une promesse à Dieu, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Et Dieu lui a donné un fils, et même après, elle a encore eu d'autres enfants, Dieu l'a exaucée. Mais quand elle est sortie de ce temple, juste après avoir répandu son cœur devant Dieu, il est dit que son visage n'était plus le même. Voilà, donc elle a fait aussi cette expérience de venir dans la présence de Dieu. Donc c'est la première clé pour persévérer, c'est s'approcher de Dieu, c'est venir dans sa présence, c'est rechercher sa présence. Et puis une deuxième clé, c'est se nourrir de la parole de Dieu. On va lire dans 1 Samuel 15, verset 35. Donc il est parlé justement de Samuel, le fils que Anne a eu. Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort. En effet, il pleurait sur lui parce que l'Éternel regrettait de l'avoir établi roi d'Israël. Alors voilà, Samuel, il est aussi dans l'incompréhension, dans l'amertume certainement, dans plein de questionnements. Mais Seigneur, tu m'as dit d'aller oindre Saül comme roi, c'était le premier roi d'Israël. Puis voilà que Saül, il a désobéi, s'est détourné de Dieu et Dieu l'a rejeté. Puis maintenant, ben voilà, Israël, il a un roi qui ne marche pas du tout avec Dieu. Mais qu'est-ce qui va se passer maintenant pour le peuple d'Israël? Et puis, je pense que ça le remettait aussi en question, lui, dans ce qu'il avait fait pour Dieu. Il ne comprenait pas trop. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ?» Alors là, il se fait secouer un petit peu, hein, monter les bretelles par le Seigneur. « Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. » « Remplis ta corne d'huile et pars. Je t'envoie chez Isaïe le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Et on passe au verset 4. « Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. » Voilà jusque-là. Donc Dieu va parler à Samuel et va lui dire « Tu vas oindre ta corne d'huile et tu vas aller oindre un nouveau roi et tu vas aller à Bethléem. » Alors c'est intéressant, parce que l'huile, ça symbolise le Saint-Esprit. Remplis ta corne d'huile, ça veut dire, mais sois rempli de l'Esprit. Tu as besoin d'être rempli de l'Esprit tout à nouveau. Et va à Bethléem. Pourquoi Bethléem? Parce que Bethléem, ça veut dire la maison du pain. Et c'est là que Samuel va oindre David comme roi pour remplacer Saül. Alors, la maison du pain. Jésus s'est présenté comme le pain de vie, hein, dans Jean 6. Et Jésus est né à Bethléem. Et puis, la parole de Dieu est comparée à du pain. Jésus a dit dans Matthieu 4:4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et Jésus est la parole faite chair, dans Jean 1. Donc, voilà, on voit que la parole de Dieu est comparée à du pain. Jésus est le pain et la Jésus est la parole faite chair. Donc, voyez, il y a tout qui se relie en fait. Donc là, on trouve une deuxième clé pour persévérer. C'est être rempli de l'Esprit et c'est se nourrir de la parole de Dieu, se nourrir du Seigneur. Et c'est important vraiment d'aller puiser dans cette parole de Dieu notre nourriture qui va nous donner de l'énergie spirituelle pour avancer, pour continuer de suivre le Seigneur malgré les difficultés. Il y a quelqu'un d'autre qui est aussi retourné à Bethléem, c'est Naomi. C'est dans le livre de Ruth, chapitre 1. Naomi qui avait donc quitté Bethléem avec son mari, ses deux fils, et qui était allée dans le pays de Moab. Et puis, voilà que son mari et ses deux fils sont morts au pays de Moab. Et Naomi se retrouve juste avec ses belles-filles. Et puis voilà. Et à un moment donné, bon, elle est dans l'amertume, évidemment, parce qu'elle a perdu son mari, elle a perdu ses deux fils, elle n'a pas de petits-enfants, elle se retrouve un peu toute seule, quelque part. Et à un moment donné, elle décide de retourner à Bethléem. Donc, elle retourne à la maison du pain, voyez. Et là, une fois qu'elle arrive là-bas, ben, les choses vont changer pour elle, et Dieu va lui redonner une nouvelle famille, et elle va être heureuse et comblée. Donc, on voit ce retour de nouveau à Bethléem, la maison du pain, ce retour à la parole de Dieu, ce retour à Jésus qui est le pain de vie. Et puis une troisième clé, c'est choisir de se confier en Dieu. Donc là, on va lire dans Jérémie, enfin dans les Lamentations de Jérémie plutôt. Donc Jérémie, qui est dans une situation compliquée. Alors j'ai dit, je n'ai plus d'avenir, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poison. » Donc là, il y a de l'amertume, hein, l'absinthe. « Moi, je m'en souviens bien et je sombre. » Voilà, donc Jérémie qui est vraiment dans les difficultés, dans l'amertume. Mais il fait un choix. « Voici ce que je veux méditer pour garder espoir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. » Voilà. « Je le déclare, l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. » Voilà, très beau texte hein, dans Lamentations 3, versets 18 à 26. Donc Jérémie choisit d'espérer en Dieu, de se confier en Dieu, et il croit que Dieu, il a encore des bénédictions en réserve. Que ça ne s'arrête pas à sa situation, ce qu'il est en train de vivre maintenant, mais que Dieu, il a encore des choses nouvelles pour lui, des bonnes choses, parce que Dieu est bon. Donc en conclusion, ben voilà, on passe tous par des temps d'épreuve, par des temps de questionnement, tôt ou tard, hein, ça nous arrive à tous, des passages à vide, des déserts. Et ces temps, ils sont normaux, ils sont nécessaires aussi à notre croissance spirituelle. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose d'alarmant, je dirais. Mais durant ces temps, eh bien, c'est vrai que nous sommes vulnérables. Nous avons peut-être cette tentation de nous décourager et de ne plus vouloir avancer, de ne plus aller de l'avant avec le Seigneur. Et la suite va dépendre de nos choix. Est-ce qu'on va persévérer ou abandonner ? Et la parole de Dieu nous donne des clés pour persévérer. Donc s'approcher de Dieu avec nos questions, avec notre amertume, voilà, pour pouvoir répandre nos cœurs devant Dieu. Se nourrir de Christ, de la parole de Dieu, être rempli aussi de l'Esprit, hein, mais se nourrir vraiment de cette parole de Dieu. Et choisir de se confier en Dieu. Croire que Dieu, il a encore des bonnes choses en réserve pour nous. Et ça, ça va nous permettre de continuer d'avancer. Et puis, la victoire, ce n'est pas forcément d'obtenir les choses qu'on aimerait ou d'avoir des réponses comme on aimerait à nos prières. Ce n'est pas forcément là la victoire. Souvent, on croit que la victoire, ben voilà, on a prié pour ça, on va obtenir ça. Mais parfois, la victoire, ce n'est pas ça. La victoire, c'est simplement de rester fidèle à Dieu et d'apprendre quelque chose au travers de nos épreuves, d'avoir grandi spirituellement, d'avoir approfondi notre relation avec Dieu et d'avoir une connaissance de Dieu qui est plus grande. C'est ça la vraie victoire, c'est de rester attaché au Seigneur malgré les difficultés, malgré tout ce qu'on peut vivre. Et parfois, on comprendra plus tard pourquoi on est passé par certains stades. C'est vrai que quand on est dedans, pas évident, hein, le brouillard et tout, mais par la suite, on se dit « Ah mais oui, mais en fait ça, ce n'était pas inutile parce que ça m'a permis de vivre ça, de comprendre ça, ou le Seigneur il a fait telle ou telle chose au travers de ça. » Donc il ne faut pas se décourager, il faut persévérer. Et Dieu, il accomplit une œuvre mais qui peut nous dépasser, mais complètement. Il peut faire bien au-delà de ce qu'on imagine. Nous, on s'imagine telle et telle réponse, mais en fait, Dieu, il a peut-être complètement autre chose, puis c'est beaucoup plus glorieux. Mais ça, ben évidemment, quand on est dedans, ce n'est pas toujours facile de l'imaginer. Et puis, même si on reste sans réponse ici-bas, ben on sait que voilà, l'important, c'est qu'on est resté fidèle à Dieu. Et puis, voilà, que notre vie ici-bas, c'est qu'un passage, mais qu'en fait, on sera pour l'éternité avec le Seigneur et qu'on comprendra tout quand on sera auprès de lui, hein, on comprendra tout. Voilà, donc l'essentiel, c'est de garder cette relation avec Dieu, de ne pas lâcher, quoi, de persévérer. Alors, je vais terminer par la prière. Ben, Seigneur, je te remercie pour ta parole, parce que ta parole, c'est vraiment une nourriture pour notre vie spirituelle. Et Seigneur, j'aimerais te prier pour ceux qui sont ici présents ou qui écouteront le message par la suite, pour tous ceux qui passent par des temps de désert, de découragement, de lassitude, des temps d'épreuve. Seigneur, pour que tu les aides à rester attachés à toi, pour que tu les aides à venir auprès de toi, à déverser leur cœur devant toi, à s'attendre à toi, à persévérer dans la lecture, la méditation de ta parole, à rechercher être rempli de l'Esprit, à désirer vraiment aller de l'avant. Et Seigneur, merci pour tout ce que tu nous enseignes au travers de la nature, avec cette semence qui, dans la terre, oui, va puiser aussi les éléments, les minéraux et tout ce qu'il y a besoin dans la terre pour se transformer. Et ben, nous, Seigneur, on a ta parole, on a ton esprit, on peut puiser ce dont on a besoin. Et Seigneur, merci parce que c'est toi qui nous transforme et tu fais une œuvre qui nous dépasse. Tes plombs sont merveilleux, tu es bon, Seigneur, et tu as encore des belles choses en réserve pour chacun de nous et pour nous en tant qu'Église aussi. Ben, Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire et que tu aides chacun, chacune d'entre nous à rester attaché à toi avec confiance, avec foi, avec détermination à avancer. Dans le nom de Jésus. Amen.